Proverbe, une double invitation, invitation de la sagesse, invitation de la folie. Un langage imagé sur lequel nous voulons nous arrêter. Proverbe 9, les 6 premiers versets d'abord. La sagesse ou dame sagesse a bâti une maison. Elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a tué des bêtes pour son festin. Elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer des invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. « Venez par ici, entrez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. » À ceux qui manquent de bon sens, elle fait dire « Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. » Abandonnez donc la stupidité et vous vivrez. Marchez sur la voie du discernement. Autre invitation, verset 13. « La folie est une femme bruyante, elle est sotte, elle n'y connaît rien. » Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège au point le plus élevé de la ville pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Qui manque d'expérience, qu'ils viennent par ici. À celui qui manque de bon sens, elle déclare « Les eaux dérobées sont plus douces que le pain, et le pain mangé en secret est savoureux. » Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Et puis alors que la sagesse se présente, nous lisons quelques versets juste dans le chapitre qui précède et qui dit l'action de la sagesse au moment de la création du monde. Je lis juste quelques versets, il faudra lire tout le passage, mais quelques versets à partir du verset 27 du chapitre 8. J'étais déjà là, dit la sagesse, quand le Seigneur fixa le ciel, qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, quand il assigna à la mer ses limites pour que les eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, oui, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre, je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Parmi ces voies de la sagesse, je voudrais donner un écho d'une parole du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Et d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? » Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Nous sommes tous conviés, tous appelés. La sagesse de Dieu lance son appel. Dame sagesse a envoyé de partout ses cartons d'invitation. Et nous sommes venus, nous avons répondu, parce que nous avons besoin de sagesse pour vivre. Nous avons besoin que la parole que Dieu nous adresse puisse nous diriger sur les chemins de la vie. Et nous sommes venus sérieux devant Dieu. Parce que la vie, c'est sérieux. Parce que les choix de la vie, c'est important. Parce que la sagesse pour vivre selon Dieu, cela demande attention, cela demande vigilance. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner par les appels de dames folies, qui elles aussi nous invitent à grands cris. Et nombreux sont ceux qui, par légèreté, facilité, répondent à son appel. Mais écoutons bien, mesdames et messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, Dame Sagesse n'a pas l'air d'être tout à fait comme nous nous la représentons. Nous la voyons sérieuse, mesurée, toujours bien pondérée, Dame Sagesse, sage comme une image. Mais voyez un peu au dos de l'invitation, la carte qu'elle nous propose. un festin, les meilleures viandes, des vins, un cadre somptueux, un banquet. Sage comme une image, la sagesse de Dieu. Sérieuse et grave, comme la réflexion sur la vie et ses problèmes. Avec son festin, elle fait quand même dans la légèreté. Et quand elle parle d'elle aux temps immémoriaux de la création du monde, elle donne à son œuvre quel visage ? Le visage d'une danse légère, aérienne, et d'un jeu en liberté, en gratuité. Sage comme une image, la sagesse de Dieu. J'ai été amené à repenser à ces textes sur la sagesse de Dieu au cours de cette semaine, à l'occasion des obsèques de notre chère sœur, Madame Yvonne Rossier. Voilà une personne qui aimait profondément le Seigneur et qui toute sa vie a manifesté une grande générosité, un large accueil à l'égard d'un nombre incalculable de personnes. Solidarité, engagement, elle connaissait. Mais elle aimait aussi passionnément flâner sur les petites choses de la vie, s'en régaler, tout arrêter pour un détail. Et comme la sagesse de notre texte, elle aimait jouer gratuitement pour le plaisir. Une liberté d'être, une légèreté inscrite tout au long au cœur de la vie et d'une vie qui avait ses engagements. En face d'une telle légèreté, d'une telle liberté, notre actualité. Le séisme au Japon, les morts, le désastre nucléaire, la Libye, les bombardements, la Côte d'Ivoire, les tensions. Rien que des choses lourdes. Certains proches aussi, frères ou sœurs en la foi, connaissent des difficultés. Et notre foi nous invite à la solidarité plutôt qu'à l'insouciance. On sent qu'il faut faire quelque chose, on voudrait prendre part à toutes ces situations, en porter un bout sur nos épaules. Mais la réalité, c'est que, en comparaison avec toutes ces difficultés, pour nous, tout va plutôt bien quand même. Tout va bien pour nous. Comment faire ? Mener notre vie, nous réjouir de ce qui nous est donné ? Est-ce là une légèreté coupable ? Irresponsable ? Inversement, devenir grave, porter le monde entier sur nos épaules, est-ce cela l'attitude responsable ? Quelle est la sagesse de vie à laquelle nous convie le Seigneur ? Quelle place pour la légèreté ? Quelle place pour la gravité ? Comment envisager ces choses à la lumière de la foi ? De manière assez naturelle, nous considérons, je pense, que la légèreté se rattache plutôt au festin de la folie qu'à celui de la sagesse. Vivre de manière légère a plutôt une connotation négative. Les gens trop légers sont des personnes qui vivent n'importe comment, ou des gens superficiels, sans profondeur, sans racines. La légèreté n'a donc pas bonne presse. Nous connaissons peut-être le récit biblique du festin de Belshazzar, qui nous est rapporté dans le livre de Daniel au chapitre 5. Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar avait reconnu, au travers de bien des étapes, la souveraineté du Dieu des cieux, grâce au témoignage de Daniel. Belshazzar, lui, ne s'était absolument pas préoccupé de ces choses. Les banquets, les fêtes monumentales, ça lui allait beaucoup mieux. Dans l'ivresse de l'une de ses fêtes, il avait même fait apporter les coupes appartenant au trésor du temple de Jérusalem. Il s'en était servi pour ses beuveries prolongées par l'adoration des dieux de Babylone, vainqueurs du Dieu d'Israël. Et soudain, au milieu de tout cela, un message s'inscrit tout seul sur le mur, une main qui écrit, à l'intention de Belshazzar. Trois verbes, et l'un d'eux est le verbe « peser ». Peser. Avec ce message donné par Daniel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger dans la balance de Dieu. Quel verdict terrible. Ce récit m'a toujours saisi. Un test comme cela est une mise en garde contre la légèreté. Tu as été trouvé léger. Ah, certains donnent l'impression d'être très aériens, d'être très enjoués toujours. Ah, c'est beau, c'est léger, ça danse. Mais si le verdict de cette légèreté aux yeux de Dieu est « tu as été pesé dans la balance et trouvé léger », alors là, c'est dramatique. Léger comme superficiel, là où il aurait fallu peut-être se laisser bousculer. Léger comme irresponsable, là où on s'attendait à toi, où on avait besoin de toi. Léger comme pas à la hauteur, là où il aurait fallu faire face. Léger comme imprévoyant, malgré les signaux qui s'allumaient. Léger comme désinvolte, là où il fallait être sérieux, là où il fallait être du sérieux. Il existe vraiment des légèretés coupables. Et le plus grave, c'est quand d'autres subissent les conséquences de nos légèretés. Alors là, on a beau multiplier les pirouettes et tout ce qu'on veut, le mal est fait, tout est plombé. Alors évidemment, en face de cela, il faut valoriser le sérieux, la profondeur, la prise à cœur des personnes, des situations, la fidélité. Et l'exemple à nos yeux est celui de Jésus, son engagement total, engagement de cœur, de compassion, sa fidélité jusqu'au bout, sa sensibilité, sa solidarité. Jésus est par excellence celui qui endosse, celui qui prend sur lui, il est allé jusqu'à prendre sur lui la condamnation de nos fautes pour nous en délivrer. Et c'est vrai que face à cela, la légèreté de la vie semble bien légère, bien superficielle. À la suite du Christ, il est important de savoir en prendre sur soi, se charger de notre croix, dit Jésus, se charger volontairement, solidairement. Cela doit primer sur les envies de légèreté et de vie facile. Contre l'idée de légèreté, il y a aussi le désir, le souci de plaire à Dieu, de faire sa volonté, de marcher dans ses voies. On ne veut pas faire n'importe quoi de notre vie. Et la sagesse, c'est fondamentalement révérer le Seigneur, l'honorer dans notre manière d'agir. Et cela demande du discernement, de la réflexion, du conseil, tout le contraire de la légèreté. Et puis contre l'idée de légèreté, il y a aussi les exigences de la solidarité. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pour venir vers nous, il a quitté le ciel et ses joies. Les prophètes ont souffert aux côtés de leur peuple au temps de l'exil. Et nous sommes invités aussi à porter les fardeaux les uns des autres. Et il nous faut prendre acte de tout cela. Si la légèreté, entre guillemets, est une fuite, un refus des solidarités et des exigences de la vie, si elle est une simple facilité pour contourner ce que Dieu attend de nous, alors elle est une légèreté coupable. Et on aura beau l'habiller de toutes les parures, tôt ou tard, l'illusion tombera. Mais du coup, la question se pose. Et la spontanéité dans tout ça? Et la spontanéité dans tout cela? Et la vie où on peut aller quand même là où les désirs, où nos désirs nous portent? Et on reproche parfois à la foi chrétienne son manque de légèreté. Il faut toujours réfléchir à tout. On se prend la tête pour la moindre situation de la vie. Même dans les groupes de jeunes, ça se passe comme ça. Je me souviens d'un morceau de bravoure qu'on a vécu quand j'étais responsable du groupe de jeunes à Nîmes. On se donnait souvent dans le groupe de jeunes à Nîmes la liberté de passer d'un sujet à l'autre. Si on avait traité un sujet une semaine et qu'on voulait le prolonger, on faisait ça la semaine suivante, on ne s'astreignait pas forcément toujours à un programme très, très lancé d'avance. Et une fois, je me souviens, on avait commencé, je crois, par la souffrance. Et puis, du coup, on avait continué sur la fois suivante. Et on avait rebondi sur la mort. Et le week-end suivant, on avait rebondi encore et on avait parlé du suicide. La brochette royale, quoi. Hein. La brochette vraiment royale. Au bout de 3 semaines, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre groupe de jeunes? Est-ce que c'est cela être chrétien? Se prendre la tête constamment sur des choses lourdes, tout le temps, tout le temps? Certains ont aussi l'impression qu'on ne peut jamais être vraiment dans la joie ou dans ce qu'on vit parce qu'il faut toujours aussi pleurer avec ceux qui pleurent, porter les fardeaux les uns des autres. Et en contraste, on voit des personnes qui s'encombrent moins de toutes sortes de réflexions, de toutes sortes de souffrances et qui donnent vraiment l'impression d'avoir de la fraîcheur, d'être bien. C'est aussi une vraie question. Alors, petite pause sur les questions. Petite information. Vous savez que les évangiles nous décrivent Jésus qui pleure. Mais jamais on ne voit dans les évangiles Jésus qui rit. Ça amenait certains théologiens, probablement pas très portés sur l'humour, à dire que c'est la raison pour laquelle Jésus a été sans péché. Il n'a jamais ri. Par contre, j'ai découvert qu'il existait une pratique assez remarquable dans le protestantisme du XVIIe siècle. C'était une période plutôt réputée pour son austérité, on appelle ça l'orthodoxie protestante. Mais le dimanche de Pâques, pour dire la joie de la résurrection, le dimanche de Pâques, le sermon commençait souvent par une plaisanterie. Ça, c'est intéressant. On appelait ça le rire de Pâques. Et là, il y a une expression de légèreté, mais qui a un sens profond. C'est parce qu'on veut fêter la vie du ressuscité. Alors, je reviens maintenant à notre texte sur le festin de la sagesse. Ce qui m'a frappé, c'est la place laissée à la joie au cœur de l'appel de la sagesse. La sagesse, quand elle appelle, n'appelle pas à un cours sur la vie. Elle n'appelle pas à un cycle de conférences sur les critères de discernement du bien et du mal. Ce n'est pas à cela qu'elle appelle dans ce texte-là. Elle appelle à un repas, à un festin même. Un festin dans lequel il y a du consistant, c'est sûr, mais aussi du léger, de l'agréable, du beau, du finement préparé, du finement aromatisé. C'est ce qui ressort, me semble-t-il, de l'image du festin de la sagesse. Alors c'est sûr, c'est une mise en scène. On illustre une vérité par ce procédé littéraire en disant que oui, c'est ce que nous apporte vraiment la sagesse lorsqu'on s'y adonne. Tout comme Jésus d'ailleurs utilisera cette même image du festin pour parler du salut. Ça nous a été dit il y a 15 jours par le message de Karim. Mais l'impact, me semble-t-il, de cette image est de dire que la sagesse de vie que Dieu nous propose unit ce qui est de l'ordre du nécessaire pour apprendre à bien agir et à bien vivre dans ce monde et ce qui est l'ordre du plaisir et de la joie. Il y a donc place pour la joie, place pour le rire, place pour ce qui nous fait sourire, pour ce qui nous fait juste plaisir au cœur d'une vie où l'on cherche avec sérieux à discerner ce qui est bien et à vivre de vraie solidarité, à faire face avec réalisme aux responsabilités des événements qui surviennent. Il y a place, oui, pour de la légèreté au cœur d'une vie qui se veut sérieuse et réfléchie. Il y a place pour ce qui est beau, ce qui est agréable au cœur d'une vie que l'on veut utile. Il y a place pour ce qui est gratuit, ce qui est non productif au cœur d'une vie que l'on veut aussi riche de beaucoup de bons fruits. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi? Parce que ces éléments de légèreté, ces moments de vie beaucoup plus aérés par rapport aux contraintes, sont des signes de liberté. Ce sont des signes de liberté. Ce sont des signes ou des moments qui disent que nous sommes plus que ce qu'il faut faire. Ils disent que nous ne sommes pas réduits à l'utilitaire ou au nécessaire. Il y a place aussi et une place à préserver pour la joie d'exister, pour la joie d'être tout simplement. L'être est un don de Dieu. L'être a sa valeur en soi. Et l'être ne se réduit pas au devoir être, même si nous sommes responsables de nos actes devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pourquoi la sagesse préserve cette dimension de gratuité, cette dimension de légèreté, cette dimension de bien-être. Et c'est pourquoi la sagesse ne se cantonne pas à inviter à ce qui est bien, mais elle invite aussi à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est savoureux, à ce qui fait plaisir. Et vous l'avez vu, le livre des Proverbes nous donne cette même image de Dieu lui-même. Nous avons lu ce texte qui décrit à la première personne le rôle de la sagesse dans la création du monde. Le langage est très surprenant. « J'étais, dit la sagesse, aux côtés du Créateur, comme maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre, trouvant mes délices dans les êtres humains. » Surprenantes ces images de la danse et du jeu pour parler de l'acte de création. Mais elle parle d'un Dieu qui reste libre dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait est une marque de liberté, c'est une joie qui s'exprime que cette œuvre de Dieu qui crée. Dieu est impliqué dans son œuvre, mais il n'est pas enfermé dans cette œuvre. Il maîtrise tout ce qu'il fait, il le maîtrise magistralement, mais il ne le fait pas d'une manière dominatrice, lourde. Son œuvre a de la légèreté du don, la grâce d'un geste artistique, la liberté d'une arabesque, la gratuité et le plaisir du jeu. La sagesse que Dieu met en œuvre donne un cadre aussi, donne des limites, mais c'est pour créer un espace à l'intérieur duquel la vie doit chanter. La sagesse donne un ordre, des constantes, mais sur lesquelles la nouveauté peut se greffer comme le jaillissement, la liberté d'une danse. Il y a là, dans ce que Dieu fait, un miroir qui éclaire la sagesse de vie à laquelle nous sommes conviés par le Seigneur. Une sagesse où l'ordre préserve ses éléments de liberté, ces éléments de légèreté, ces éléments de gratuité. Une fois qu'on a dit tout cela, qu'est-ce que cela signifie pratiquement pour notre vie? J'ai juste 4 points que je voudrais souligner. Premier point, soyons sérieux et solidaires, mais n'oublions pas la joie et les moments de légèreté. Lorsqu'on traverse des passages de vie exigeants, lorsqu'on est peut-être dans une période de pression ou d'incertitude, on a vite fait de s'y enfermer et d'une certaine manière de se réduire à ce que l'on traverse. De même, une forte responsabilité que l'on porte peut devenir notre seul horizon de vie, notre seul horizon de pensée. On peut ne jamais s'autoriser à décrocher. Et c'est vrai aussi parfois pour les épreuves. On ne s'autorise pas à décrocher parce qu'on a l'impression que ce serait trahir la situation ou les personnes impliquées. La sagesse biblique nous dit, attention, sois sérieux et solidaire, oui, mais n'oublie pas la joie, n'oublie pas les moments de légèreté. Tu es beaucoup plus que ce que tu traverses maintenant. Tu as un Dieu qui est beaucoup plus que ce que tu vis à présent. Et il t'appelle à rester aussi libre en toi-même, autant pour autant que c'est possible. Soyons sérieux et solidaires, oui, mais n'oublions pas la joie et les moments de légèreté. Deuxième application, valorisons les temps différents de notre vie. Valorisons les temps différents de notre vie. L'Ecclésiaste nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Et dans sa liste, il précise un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors cette distinction des temps de notre vie est une limite. D'un certain côté, elle nous rappelle que notre vie n'est pas totalement unifiée. Mais cette distinction des temps, c'est aussi une protection. C'est aussi une protection. Il nous faut vivre des temps différents. Il faut les accueillir, ces temps différents. Il faut parfois peut-être nous les imposer, ces temps différents. Certains ont besoin de s'imposer des temps de légèreté, de gratuité au milieu de toutes leurs activités. D'autres gagneront peut-être à s'imposer des temps d'engagement, de sérieux au cœur d'une certaine nonchalance. veillons à ces temps différents dans nos vies, dans notre vie. Conjuguons-les ces temps. Essayons de faire des temps plus légers une force pour les temps d'engagement plus grands. Et en ayant bien rempli nos temps d'engagement, ayons la joie légitime de ces temps plus légers. Mais autant que possible, essayons de vivre chacun de ces temps pleinement. Quand il faut du sérieux, soyons sérieux. Quand la légèreté nous est offerte, saisissons-la. Elle est aussi un don de Dieu. Troisième application que je voudrais vous proposer. Faisons la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui n'est pas de notre ressort. Je pense ici à la difficile question de la solidarité à l'heure de la mondialisation. Est-ce que je peux m'octroyer quelques moments de joie alors que des dizaines de milliers de Japonais pleurent leur mort? La question est redoutable. Il serait absolument inacceptable, totalement inacceptable, que nous banalisions tant de souffrances ailleurs en disant « pour nous, tout va bien ». Nous devons accepter de nous laisser saisir. Et pas simplement nous laisser saisir pour dire « merci Seigneur parce que ça va bien pour moi ». C'est parfois un petit réflexe que je trouve un tout petit peu déplacé. S'il y a quelque chose à faire, dans la solidarité, tentons ce que nous pouvons faire. S'il y a quelque chose à être, acceptons de prendre sur nous solidairement une part de tristesse. Le respect impose parfois une minute de silence. C'est ce qui se vit parfois dans la société. Par solidarité, on marque le respect par une minute de silence. Et je crois qu'il est juste de savoir manifester dans notre cœur ce genre de respect par une attitude intérieure de cet ordre-là. C'est important. Mais il nous faut aussi, me semble-t-il, dans un deuxième temps, apprendre à faire la part des choses et de nous rappeler que tout ne nous concerne pas tous pareillement. Tout ce qui se passe dans le monde ne nous concerne pas tous pareillement. Chaque situation du monde ne doit pas mobiliser toutes les énergies de tout le monde de la même façon. Il nous faut apprendre aussi à rester disponible pour ce qui est de notre ressort, pour les combats qui nous sont ou qui nous seront demandés concrètement. Mais tout le monde n'est pas sur la première ligne au même moment, ni sur les mêmes fronts. Et la sagesse, me semble-t-il, c'est aussi de prendre en compte, de préserver ces limites-là. Les alcooliques anonymes qui, pour surmonter leurs difficultés, leurs dépendances, ont à faire face à bien des combats et qui se soutiennent dans ces combats, ont une prière pleine de sagesse qu'ils reprennent à chaque séance où ils se rencontrent. Et cette prière dit la chose suivante. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et donne-moi la sagesse pour connaître la différence. » Je crois que c'est une prière très sage, une prière qui conjugue l'humilité devant les choses. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, humilité. Mais aussi engagement, il y a des choses sur lesquelles je peux changer. Donne-moi la force vraiment pour ce que je peux faire, de vraiment agir. Et puis, la nécessité de savoir faire la différence, le discernement. Et je crois que nous avons à prendre cela aussi au cœur de ces situations multiples qui nous sont mises devant les yeux en permanence. Jésus nous invite, me semble-t-il, à ce même discernement lorsqu'il parle de l'inquiétude. Tu t'inquiètes, tu t'agites. On dirait aujourd'hui, tu te sens concerné quelque part pour beaucoup de choses. Mais quelle est la valeur ajoutée de cette inquiétude, nous demande Jésus. Est-ce qui peut prolonger son existence par son inquiétude? Quelle est la valeur ajoutée de cette inquiétude? Quelle est la valeur ajoutée de ce souci que l'on pense, que l'on prend, mais qui ne débouche sur rien? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face de cela, notre Seigneur a une parole très décalée et tout en légèreté. Il parle des oiseaux du ciel qui volent dans les airs, des lys des champs qui sont magnifiquement parés, et il nous invite à la confiance en Dieu, à la confiance en la valeur que nous avons, nous et ceux qui sont sur nos cœurs, aux yeux de Dieu. Et Jésus insuffle ici une bouffée de légèreté au cœur du souci et de la gravité humaine. Et ça fait du bien de l'entendre, en sachant que pour notre Seigneur Jésus, cela n'a jamais été une excuse pour se désolidariser. Apprenons donc à faire la part, à discerner ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et ça nous amène à une dernière pensée pratique. Gardons confiance en Dieu. Et je suis très heureux que toute la note de la première partie de ce culte était sur cette confiance que nous avons en Dieu. C'est aussi l'orientation de cette parole de Jésus lorsqu'il parle des oiseaux du ciel, des lys des champs, nous inviter à la confiance, à une confiance sereine, une confiance heureuse qui se nourrit des bontés de Dieu, qui se nourrit de l'amour de Dieu pour sa création. Une confiance qui accepte finalement d'intégrer l'amour que Dieu a pour nous comme l'une des bases fondamentales de notre vie. Je sais que je suis aimé de Dieu. Une confiance qui permet alors aussi de se réjouir en l'Éternel dans ce qu'il nous donne pour découvrir les ressources de légèreté peut-être, les ressources de consolation, les ressources de soutien, les ressources d'encouragement, les ressources aussi de force données pour les actions à venir. Gardons confiance en Dieu. Alors, une petite et dernière histoire, un peu souriante, et une petite histoire qui rappelle que cette confiance, si elle est belle et bonne, n'est pas toujours évidente, et c'est juste important de le rappeler. C'est l'histoire d'un alpiniste qui grimpe en solitaire les montagnes les plus inaccessibles. Et un jour, alors qu'il est vraiment sur une paroi, il perd pied. Sa corde se déroule, mais finit par casser. Notre alpiniste se rattrape in extremis, du bout des doigts, à une plateforme glissante, au-dessus du vide. Il tente de se redresser, il tente, mais il n'y réussit pas. Et le voilà accroché comme cela. Et il est là, il appelle alors en chuchotant parce que un cri risquerait peut-être de faire tomber une avalanche. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Le silence lui répond. Il ose encore, à peine plus fort. Y a-t-il quelqu'un ? Alors une voix lui répond. Oui, je suis là. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. L'alpiniste reprend courage. Il attend la suite avec espoir. Ses doigts menacent là de lâcher prise. La voix continue, lui dit « Mon enfant, fais-moi confiance. Tu peux lâcher cette plateforme. Je suis là, tout près de toi. Je suis ton appui. Je te porterai. Il ne t'arrivera rien de mal. » L'alpiniste est là. Il a entendu la voix. Il a cette parole, cette promesse. Il mesure l'exigence de la confiance qui lui est demandée. Alors, dans l'immensité du silence, est toujours accroché à sa plateforme, il ose une autre question. « Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» C'est pas toujours facile, la foi. C'est bien d'avoir les promesses de Dieu. Mais combien de fois n'avons-nous pas dit d'une certaine façon, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre ? Mais Dieu, nous l'avons dit, est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, mes très chères sœurs, mes très chers frères, souriez, vous êtes aimés.